Matière à penser, Dominique Rousset.
Et le dernier volet de notre série « Mauvais départ pour le siècle et comment préparer la suite ?» Eh bien, au carrefour de l'écologie, de l'économie, de la science, nous l'avons vu cette semaine, des initiatives citoyennes. Et nous reprenons un constat partagé par tous nos invités. Le 21e siècle, effectivement, a pris un assez mauvais départ. Mais il y a des ouvertures, il y a des propositions qui sont déjà sur la table. Nous avons parlé de l'anthropocène, c'était lundi, de la survie à un effondrement environnemental désormais constaté. Des espoirs fondés sur la bioéconomie avec les réserves d'usage. Et après l'éloge de la frugalité que nous avons fait hier, nous concluons sur un champ de la justice sociale, une idée originale. Elle n'est pas du tout neuve, mais elle fait son chemin dans nos sociétés très troublées. Elle questionne nos modes de vie, notre rapport au travail et au temps libre, notre vision de l'égalité, de la redistribution. Son principe est philosophique autant qu'économique ou social. Utopie, fantasme ou solution crédible pour l'avenir, que penser du revenu universel ? Bonsoir Guillaume Allègre.
Bonsoir.
Économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, centre de recherche en économie de Sciences Po. Vous êtes aussi spécialiste des questions de protection sociale et de fiscalité. On va voir que ça peut très bien aller ensemble. Et à l'origine d'un petit livre très complet sur ce sujet du revenu universel avec des contributions d'auteurs qui sont plus ou moins convaincus, c'est ce qui fait tout l'intérêt de ce travail, par le revenu universel. J'aimerais bien commencer, comme vous le faites avec le livre, dans votre introduction, par la parabole de la flûte. Je crois qu'elle a été trouvée ou mise en page par le prix Nobel Amartya Sen, le grand prix Nobel indien. C'est ça ?
Exactement, oui. En fait, la parabole, c'est qu'il faut donner une flûte à un des trois enfants. Et donc, il y a un enfant qui a contribué à faire la flûte, un autre qui sait très bien jouer de la flûte, alors que les autres ne savent pas jouer, et un autre qui n'a pas beaucoup de jouets. À qui donner cette flûte, en fait ? Et il y a finalement
trois bonnes raisons de la donner.
Trois raisons de la justice. Alors, si vous la donnez à celui qui n'a pas de jouets, en fait, vous suivez le principe du besoin. Vous donnez à celui qui a le plus de besoins. Si vous la donnez à celle qui sait en jouer, vous suivez un principe d'efficience. Et puis, si vous la donnez à celle qui a contribué à la fabriquer, vous suivez le principe du mérite.
Voilà, son travail et l'a mérité. Et voilà. Au fond, c'est ainsi que fonctionne l'économie.
Exactement, l'économie fonctionne comme ça. Alors, on peut dire, par exemple, que les salaires sont donnés selon le mérite, plus ou moins, en tout cas selon la contribution de chacun. Les prestations sociales aujourd'hui sont données pour la plupart selon le besoin, notamment les minima sociaux, les allocations logement. Et puis, entre les entreprises, en fait, les facteurs de production, on dit ça en économie, sont donnés selon l'efficience. C'est les entreprises qui en ont le meilleur besoin, qui utilisent les facteurs de production, tel ou tel facteur de production.
Leur ont mérité. Et vous ajoutez, c'est pour ça que vous avez démarré avec cette jolie fable de la flûte, parce que vous ajoutez un quatrième principe qui est celui de l'égalité, qui serait donc ce revenu
Exactement.
Universel qui s'inscrit là-dedans.
Alors avec ce
là-dedans.
Principe d'égalité, on pourrait tirer au sort les enfants ou alors leur donner la flûte une semaine sur trois. Et finalement, le principe du revenu universel suit ce principe d'égalité qui est un nouveau principe qui n'est pas beaucoup utilisé en économie, à part pour l'héritage. Et les héritages, et notamment en France, ils sont dans la très grande majorité des cas, donné de façon égalitaire aux trois enfants. Et quand, en fait, il y a une ressource qu'on dirait exogène en économie, généralement, elle est distribuée de manière égalitaire. Par contre, les autres ressources sont distribuées selon d'autres principes, les prestations sociales selon le besoin, et voilà.
Oui, tout à fait. Vous faites bien de dire en France, d'ailleurs, pour ce qui est de l'héritage, parce que c'est pas le cas partout.
Non, c'est pas le cas partout.
Les pays anglo-saxons ne fonctionnent pas de la même manière, on peut le donner à l'enfant qu'on veut, je crois.
Exactement.
Nous l'avons appris dans cette émission. Alors, en France, donc, si on définit ce revenu universel, on va en parler partout dans le monde, mais peut-être en fixant un peu sur la situation française. Un revenu universel, c'est quoi ? C'est un montant égal pour tout le monde, voilà. Sans condition, oui. Sans contrôle, ni de ressources, ni de besoins, et sans exigence de contrepartie.
Exactement.
On déciderait qu'on donne à chaque personne.
Mais exactement, c'est un revenu mensuel versé à tous les membres d'une communauté politique et trois caractéristiques, celles que vous avez données. Donc c'est universel, c'est-à-dire que c'est donné sans condition de ressources ou de besoins. C'est sur une base individuelle, c'est-à-dire que c'est versé à tous les individus et pas à un ménage, c'est-à-dire aussi que pour un couple, il va recevoir deux fois plus que un individu seul.
Donc ça, c'est pas vraiment de l'égalité.
Ça s'écarte un petit peu des principes qui sont suivis aujourd'hui, puisque par exemple, pour le RSA, on donne 1,5 fois de plus au couple qu'à un individu seul. Et troisièmement, c'est versé de façon inconditionnelle, c'est-à-dire sans exigence de contrepartie en termes d'insertion sociale ou professionnelle. Et on sait qu'aujourd'hui, le RSA, on demande des efforts d'insertion sociale ou professionnelle.
Oui, revenu social d'activité. Alors, c'est effectivement, restons peut-être sur la France, hein, si ce principe universel, enfin de revenu universel était adopté, il pourrait se substituer à l'ensemble des revenus des minima sociaux qui, il faut le rappeler, existent dans la plupart des pays développés en tout cas. Ouais. Sauf il y a des cas quand même spécifiques, l'Italie.
En Italie,
en Europe.
Aux États-Unis, c'est pas universel non plus.
États-Unis, bien sûr, mais États-Unis, c'est le fameux care des deux côtés, hein, pour les personnes âgées, pour les pauvres, c'est cela.
Voilà. Et puis les familles
Medicare,
avec enfants
aussi. Medicaid. L'Italie, quel est le système? Pourquoi il est différent?
Bah, c'est un système...
Il n'applique pas la même démarche?
Mais comme en France avant 89, hein, c'est les municipalités qui s'occupent de la charité finalement.
De gérer sur le mode...
C'est pas une solidarité nationale.
Alors sur ces trois caractéristiques, universel, il serait quand même, sur l'exemple français, plus étendu quand même que le RMI et le RSA?
Oui, le RMI et le RSA sont versés sous condition de ressources, c'est-à-dire qu'ils baissent lorsque vos ressources augmentent. Alors que le principe de revenu universel, c'est de le verser pour tout le monde. Donc si on verse par exemple 500 euros à 50 millions d'adultes, mensuellement, ça aura un coût de 300 milliards.
Voilà, ça on le saurait déjà. Et le gros avantage pour les défenseurs du revenu universel, mais on va revenir sur la philosophie, c'est qu'on éviterait le non-recours. Car curieusement, en France, on a un vrai problème de non-recours aux prestations.
Oui, exactement. Donc c'est un problème qui est croissant. On a un non-recours donc aux minima sociaux, notamment le RSA, qui est considéré, estimé à 35%. Avant, il y avait le RSA activité aussi. Gros problème de non-recours, il y avait un non-recours de 65% qui a été résolu lorsqu'on a changé la prestation et maintenant c'est une prime d'activité, donc le non-recours est plus faible, estimé à 30%. Donc on a vraiment un problème de non-recours et le
revenu universel. Les gens manquent d'informations,
Les gens manquent d'informations, ils peuvent se sentir stigmatisés, ils peuvent trouver que les efforts administratifs sont trop important, ou ils peuvent ne pas faire la demande pour une question éthique.
Oui, et puis les demandes sont souvent compliquées, effectivement,
voilà,
les démarches.
Les démarches sont compliquées, oui.
Alors revenons sur l'inconditionnalité, parce qu'on va tout de suite à citer Philippe Van Parijs, qui a d'ailleurs dirigé cet ouvrage avec vous, hein, pour ou contre le revenu universel. Philippe Van Parijs, je le précise, professeur à l'université de Louvain, hein, c'est ça, en Belgique, qui est un inconditionnel du revenu universel.
Hein, d'accord. Ardent défenseur du revenu universel
depuis, très nombreuses années.
Plus de 30 ans, ouais.
Il va très loin, hein, il prend, on a parlé de la parabole de la flûte, lui c'est celle du surfeur à Malibu, et on va voir que ça ne va pas satisfaire tout le monde. Tout le monde y a droit, y compris le surfeur à Malibu qui a décidé de passer sa vie à faire du surf sur les océans les plus beaux.
Exactement. Il y a eu une controverse importante il y a une vingtaine d'années. Et la question, c'était de savoir, parce que Philippe Van Parijs s'inscrit dans une logique rawlsienne.
John Rawls.
John Rawls, philosophe américain. Et il y a eu une controverse justement avec John Rawls, parce que John Rawls a dit, Philippe Van Parijs lui a soumis son idée de revenu universel, en disant qu'il pensait que la théorie de la justice développée par John Rawls devait défendre un revenu universel, si on suivait les principes de la théorie de la justice de John Rawls. Et ces principes, enfin, ils sont nombreux.
On peut les rappeler brièvement,
mais
oui.
Un des principes, c'est de maximiser la situation des plus défavorisés. Et Philippe Van Parijs, je pense que le revenu universel suit ce principe-là. Et donc John Rawls lui dit, non, mais quand même, on ne va pas nourrir les surfeurs de Malibu. En fait, Philippe Van Parijs était étonné et a expliqué pourquoi on devait nourrir quand même les surfeurs de Malibu. Alors, selon John Rawls, la société n'est pas obligée de les nourrir parce qu'en fait, ils font pas partie des plus défavorisés. Parce que, en fait, ils jouissent d'un loisir important. Et donc, pour cette raison-là, ils font pas partie des plus défavorisés comme les chômeurs ou les travailleurs pauvres pourraient en faire partie. En fait, ce que Philippe Von Parrish explique, c'est que le revenu universel devrait être un droit. Pourquoi il devrait être un droit? Parce que, et ça, il reprend les idées, de peut-être qu'on va en parler, de Thomas Paine.
Oui, on va parler de Thomas la partie
Paine,
historique.
Ouais. L'idée, c'est que il existe des rentes, et on va expliquer pourquoi. Alors avant, c'était des rentes qui étaient liées à la terre. Maintenant, aujourd'hui, Philippe Von Parrish parle de rentes d'emploi, c'est-à-dire que lorsque vous avez un emploi, vous avez eu de la chance, une partie de votre rémunération qui est liée à votre contribution, mais c'est pas l'entièreté de votre rémunération qui est votre contribution, il y a une partie de chance aussi. Et donc, du coup, il est normal que les personnes qui ont un emploi, finalement, reversent une partie de cette rente à l'humanité entière, finalement. Mais au moins aux membres d'une communauté politique.
Alors, revenons justement sur la partie historique, c'est important, parce que ce revenu universel, on l'a dit en commençant, a une longue histoire derrière lui. Peut-être qu'on va citer les plus connus, Thomas Paine, on est au 18e ici.
Voilà, fin du 18e, 1795, dans un petit essai qui s'appelle « Justice agraire », Thomas Paine propose une version du revenu universel, mais c'est pas exactement un revenu universel. Pourquoi il le propose? Parce qu'il dit que les hommes sont les propriétaires communs de la terre. Et donc, les propriétaires fonciers ont dépossédé, finalement, les hommes de la terre. Et donc, du fait de ce droit naturel...
La terre appartient à tout le monde, c'est ça? C'est le principe de départ.
La terre appartient à tout le monde, c'est le principe de départ. Et comme certaines personnes sont dépossédées de ce droit, on devrait les compenser en versant un revenu. Ce que propose Thomas Paine, c'est de taxer de 10% les transmissions systématiquement et de verser à 21 ans un revenu, et il propose 15 livres. Alors 15 livres, c'est 2/3 du revenu annuel d'un travailleur agricole à l'époque. Et il propose aussi de verser 10 livres par an pour toutes les personnes après l'âge de 50 ans.
Et il insiste sur le fait que ce n'est pas de la générosité, mais bien de la justice.
Ça découle d'un droit naturel. Et Thomas Paine reprend l'argument de Thomas Paine un an plus tard, dans un essai critique de l'essai de Thomas Paine, Justice agraire. Il dit, mais en fait, s'il existe un droit naturel à la propriété, c'est l'entièreté de la rente foncière qui devrait être socialisée. C'est-à-dire qu'on devrait socialiser les terres, chaque paroisse devrait être propriétaire des terres, et on devrait, après avoir financé les dépenses publiques, on devrait verser tout l'argent qui reste de manière égalitaire entre tous les hommes et les femmes.
Ce qui est intéressant, c'est que ça passe d'une paroisse à une autre, toujours au nom du droit, mais c'est chaque paroisse qui devrait gérer l'argent.
Exactement.
Et le redistribuer à tous. On a d'autres exemples comme ça. Là, on est encore au XVIIIe siècle.
Là,
vous disiez Thomas
Paine,
c'est juste après.
Il y a Charlier aussi qui fait à peu près la même proposition. Mais en fait, ça atteint finalement les économistes et l'administration dans les années 60 aux États-Unis. C'est proposé à la fois par des économistes de gauche, dont James Tobin, et des économistes de droite, dont Milton Friedman. Ça prend le nom soit de revenu universel à gauche, soit d'impôt négatif à droite, mais le principe est à peu près le même. Et à cette époque, l'administration américaine expérimente un impôt négatif sur certains des territoires, dont le New Jersey. Et il y a une loi, c'est dans le contexte américain, alors il faut rappeler le contexte américain, donc début des années 60, il y a Lyndon Johnson qui déclare la guerre contre la pauvreté. Il faut aussi se souvenir qu'aux États-Unis, il n'y a pas de minimum social. Il n'y a pas ni le RMI ni le RSA à l'époque. L'impôt négatif instaurerait un minimum social, l'impôt négatif ou le revenu universel. Et donc, il est expérimenté. Et puis, il y a une loi qui est prête et qui est censée être votée par le Congrès. Et il y a les résultats de l'expérimentation qui tombent. Et les expérimentateurs concluent qu'il y a des faibles incitations à l'emploi, notamment pour les femmes, et notamment les femmes avec enfants. Ce qui était important dans leur conclusion, c'est qu'ils disaient qu'elles étaient faibles, les désincitations à l'emploi. Elles étaient un peu attendues, mais faibles.
Et pas si mal.
Ce qu'en ont retenu les députés américains, c'est qu'en fait, elles existaient. Et donc, du coup,
ils l'ont supprimé.
Ils n'ont pas pas voter la loi. Mais quand même, ce qui est intéressant aussi, c'est que en 1972, donc un petit peu après, McGovern, qui est le candidat démocrate à l'élection présidentielle, propose le revenu universel. Revient à nouveau là-dessus. Alors là, c'est intéressant de faire un petit peu le parallèle avec la campagne de Benoît Hamon en 2017, parce que en fait, il y a certains parallèles. McGovern, c'est un candidat qui était classé très à gauche. À l'époque, c'est Nixon qui était président. Il était très populaire et les démocrates ne s'attendaient pas à gagner. Donc, ils se sont fait un peu plaisir pendant la primaire et ils ont nommé le candidat le plus à gauche, notamment parce qu'il était contre la guerre au Vietnam. Et pendant l'élection, il propose un revenu universel conseillé par le futur prix Nobel James Tobin. Et alors là, Nixon le pilonne sur la valeur travail et c'est la défaite la plus importante du Parti démocrate. McGovern ne finit par gagner qu'un État, le Massachusetts, et perd 49 États.
Pensez que sa défaite vient de cette proposition?
Pas seulement.
Pas seulement quand même. Enfin, vous pensez qu'elle est très responsable de ça?
En fait, ce qu'on voit, c'est que les candidats qui proposent un revenu universel finissent par perdre. Alors, est-ce que c'est une raison de cause à effet ou pas? Je ne peux pas dire.
On va revenir sur effectivement la proposition de Benoît Hamon.
Mais en tout cas, le revenu universel, finalement, aux États-Unis, a été abandonné. On n'en parle plus. Après, l'idée s'est développée en Europe dans les années 80-90, notamment grâce à Philippe von Parrish. Mais aux États-Unis, on n'en parle plus depuis lors. Pour les familles avec enfants, si vous êtes célibataire sans enfants, vous n'avez pas l'équivalent du RMI ou du RSA aux États-Unis.
Et je le répète, ce n'est pas la majorité, au contraire, des pays développés qui ont tous un système plus ou moins protecteur comme ça. Voilà. Et puis quand même, au XXe siècle, bon, vous citez ce cas américain qui est intéressant, c'est deux épisodes américains. Mais quand même, après les propositions de Thomas Paine, de Thomas Spence et également de Charlier, là, dont vous avez parlé, qui était un peu plus tard, je crois, fin 19e, qui lui voulait nationaliser les terres et verser lui aussi un minimum de la naissance à la mort. Quand même, au XXe siècle, le contexte change, Guillaume Allègre, puisqu'évidemment, après-guerre, apparaissent les États-providence, qui assurent quand même les prestations sociales, les assurances. Donc l'argument du droit, en tout cas, le droit à l'égalité est moins présent.
Il y a trois modèles.
Parce que les États s'en chargent.
On peut voir trois modèles de protection sociale. Le premier modèle, c'est celui de l'assistance sociale, de l'aide aux plus pauvres, qui est ciblée sur les plus pauvres. Après, il y a le modèle de l'assurance sociale, qui est développé en France après-guerre. Donc là, c'est les assurances contre les risques, risque maladie, vieillesse, il y a la famille.
L'État-providence.
Voilà, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'État-providence. Et finalement, le revenu universel, c'est un troisième modèle, c'est le dividende social. Alors, ce dividende, il y a si on pense qu'il faut redistribuer la rente foncière ou redistribuer les rentes d'emploi, comme Philippe von Parrish propose.
D'un mot quand même, Guillaume Allègre, pourquoi est-ce que cette idée de revenu universel, il n'y a pas que Benoît Hamon qui la porte, mais c'est vrai qu'elle est un peu dans l'air, vous-même vous avez jugé bon de faire un livre sur ce sujet, pourquoi elle revient aujourd'hui?
J'ai deux explications pour lesquelles ce sujet revient aujourd'hui. Le premier, c'est que le projet social-démocrate serait en déclin, en fait, et il remplacerait le projet social-démocrate. Et puis le deuxième, c'est que le revenu universel surf, on a parlé du surfeur, sur des sujets porteurs. Alors, qu'est-ce que le projet social-démocrate, qui est en déclin d'après moi? Le projet social-démocrate, c'était un compromis entre l'économie de marché et des institutions qui protègent les travailleurs. Alors, ces institutions, c'est les assurances sociales, on en a parlé, c'est les dépenses publiques, notamment d'éducation, c'est le soutien au salaire, dans une logique d'économie fordiste, et notamment avec un salaire minimum, la réduction du temps de travail et les politiques keynésiennes contracycliques. Et alors, il y a trois éléments d'explication qui pourraient expliquer pourquoi ce projet social-démocrate est en déclin. Alors, le premier, c'est que le projet social-démocrate serait achevé. C'est-à-dire qu'il aurait réussi, et c'est pour ça que finalement, on aurait atteint un plafond.
Et on ne progresse plus.
On ne progresse plus parce que on parle de ras-le-bol fiscal. Il y a un ministre socialiste qui a parlé de ras-le-bol fiscal. Et puis on voit que ce ras-le-bol fiscal, il a gagné aussi les classes populaires. Dans son dernier livre, Alexis Spire, il montre que 60% des classes populaires pensent qu'il y a trop de charges ou d'impôts en France. Et ce montant est plus important parmi les classes populaires que parmi les classes supérieures, pour lesquelles il y a 40% des personnes qui pensent que les charges et impôts sont trop élevés. Ça, c'est une explication. Un autre élément d'explication, c'est que avec la mondialisation, mondialisation et l'européanisation, en fait, on empêcherait le modèle social-démocrate. Alors, il y a une part de vérité parce qu'il y a une pression accrue sur les salaires. Les politiques keynésiennes sont un peu empêchées par les règles budgétaires. Mais c'est pas entièrement convaincant parce que quand même, dans la mondialisation et en Europe, il y a des modèles sociaux très différents. Les taux de prélèvement obligatoires sont pas du tout les mêmes que ce soit dans les pays scandinaves ou dans les pays du Sud. Donc il y a plusieurs modèles sociaux qui restent possibles. Alors la troisième raison, c'est que le projet social-démocrate ne serait plus viable en période de forte croissance et que ce projet finalement était viable dans les 30 glorieuses quand la croissance était importante, qu'on a pu mettre des dépenses collectives sans réduire les dépenses privées. Mais aujourd'hui, ça serait plus viable dans le sens où si on veut plus de dépenses collectives, il faut réduire les dépenses privées. Et donc on voit cette raison se combine un peu avec la première.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free, but you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
France Culture, matière à penser, Dominique Rousset.
En compagnie de Guillaume Allègre, économiste au Centre de recherche en économie de Sciences Po, qui a dirigé un travail pour ou contre le revenu universel. Et c'est de cela que nous parlons dans ce dernier volet de notre série « Mauvais départ pour le siècle et comment préparer la suite ». Cette idée utopiste pour certains, crédible pour d'autres, d'un revenu universel. On a montré la partie un petit peu historique, hein, les fondements de ce projet, de ce principe original, Guillaume Allègre. Allons encore un peu plus loin, et nous sommes dans l'époque évidemment actuelle, les raisons aussi pour lesquelles peut-être le revenu universel, on peut l'appeler d'existence aussi, hein, c'était le terme qui avait été utilisé par Benoît Hamon au moment de la campagne présidentielle. C'est aussi parce que on parle beaucoup de fin du travail, parce qu'on parle de précarisation, parce qu'on parle de jobs inutiles, les fameux bullshit jobs qui avaient été avancés, qu'on parle d'inégalité et revenons encore aux dégradations environnementales. Tout ça est un peu mêlé. On serait à la fin d'une période qui irait vers peut-être la décroissance.
Exactement, une des raisons pour lesquelles le revenu universel revient aujourd'hui, c'est parce qu'il surfe sur ces sujets-là aussi. Donc on a parlé pendant la campagne présidentielle de fin du travail, on a parlé d'automatisation. Aujourd'hui, on parle de bullshit job, et il y a la question des inégalités qui est aussi en jeu, et la question environnementale. Donc finalement, le revenu universel, il coche un peu toutes ces cases et toutes ces préoccupations contemporaines. Mon sentiment, c'est que, donc c'est un peu le couteau suisse des politiques publiques, mais mon sentiment, c'est qu'en fait, il bénéficie d'une ambiguïté sur le type de revenu universel qu'on mettrait en place. Parce qu'en fait, il y a trois types de revenus universels. Le revenu universel, il est défendu par trois écoles de pensée différentes.
Donc, il y a très différentes. On va le voir.
On a parlé de Milton Friedman. Lui, il le défendait dans une logique libertarienne, c'est-à-dire de réduction du poids de l'État, de l'intervention de l'État dans l'économie. On verse le revenu universel pour solde de tout compte. Et après, on supprime les assurances sociales, on supprime l'assistance sociale, on supprime le SMIC et toutes les interventions de l'État dans l'économie, donc les diverses subventions agricoles,
industrielles. En gros, on remplace, l'État donne cette somme, ce revenu d'existence, et après il nous laisse travailler tranquille.
Exactement,
on s'occupe plus de rien.
Il laisse le marché s'occuper du reste. Donc ça, c'est la logique libertarienne. Il y a une deuxième logique que j'appellerais social-libérale et qui est la logique de Philippe Von Parrish. Là, l'idée, ça rentre dans un contexte où finalement le salariat à temps plein n'est plus la norme sur le marché du travail et où il y a un non-recours croissant aux prestations sociales. Et donc là, l'idée, c'est de moderniser finalement le système de prestations sociales, faire en sorte qu'il et comme il est automatique le revenu universel, qu'il n'y a plus de non-recours. Et donc, c'est de proposer un nouveau système de protection sociale. Et puis, il y a une troisième logique qui est la logique décroissante, pour laquelle le revenu universel aiderait finalement à gérer la fin du travail. Ça serait une subvention à la réduction du temps de travail.
Et dans la réduction du temps de travail, elle peut être contrainte, mais elle peut être aussi choisie. C'est-à-dire récupérer du temps libre, décider de gagner moins.
Il y a un élément émancipateur certain. Ouais. Mais alors, ce qu'il faut voir, c'est que dans la logique sociale libérale, défendue notamment par Hamon dans la campagne présidentielle, le revenu universel serait relativement faible, autour de 500 euros par mois, alors que dans la logique décroissante, si vous voulez vraiment avoir les avantages que certains de ces défenseurs attribuent au revenu universel, il faut qu'il soit suffisant pour que les personnes choisissent d'arrêter de travailler. Et pour que le revenu universel soit suffisant, il faut même qu'il soit relativement élevé. Et il devrait être proche du SMIC actuel. Donc 1000 euros. Julien Bayou, par exemple, d'Europe Écologie Les Verts, propose 1000 euros mensuels.
Alors par exemple, puisqu'on cite des auteurs, hein, il y a eu beaucoup de publications là-dessus. Hein. C'est un sujet qui passionne quand même, qui fait beaucoup travailler et réfléchir les économistes, mais pas seulement. Il y a aussi des philosophes qui s'y intéressent. Je crois que vous le citez également, l'ouvrage, je me souviens plus de quel était le titre, mais on va le mettre en ligne, de Gaspard Koenig, Marc de Basquiat, qui eux proposaient aussi un revenu universel pour supprimer le RSA. Le RSA, ils le jugent paternaliste, ils le jugent injuste aussi, mais ils vont sur des sommes bien inférieur à ce que vous dites, 480 euros par adulte, et je crois 270 euros après 14 ans, mais en gardant alors des certaines allocations, chômage, retraite, logement.
Voilà, exactement.
C'est encore une autre formule.
C'est
difficile de s'y retrouver dans tout ça.
C'est difficile de s'y retrouver, mais finalement, là, Même s'il n'est pas défendu par exactement les mêmes personnes, puisque Gaspard Koenig est président de Génération Libre, donc très libéral. Finalement, sa proposition de revenu universel, qu'il appelle Liber, est assez proche de ce que proposait Benoît Hamon pendant la campagne présidentielle. Mais ce que je voudrais dire quand même, c'est ce qui est important, pour être réellement émancipateur, le revenu universel, il devrait être de 1000 euros. Le problème, c'est que un revenu universel de 1000 euros n'est pas finançable. Pourquoi il n'est pas finançable? Parce que si vous voulez verser 1000 euros par mois à 50 millions d'adultes, c'est 600 milliards. Et si vous voulez financer, c'est environ 40 à 45 points de CSG, auxquels se rajoutent les cotisations sociales, l'impôt sur le revenu, et auxquels, si vous voulez mettre en place un revenu universel suffisant, il faut aussi tenir compte des changements de comportement. Donc si l'objectif, c'est que les personnes s'arrêtent de travailler, ben, ça vous fera une assiette fiscale encore plus faible. Donc il faut rajouter, si 10% des gens s'arrêtent de travailler, il faut rajouter encore 10 points de plus de...
Là, on rentre dans l'utopie, non, quand même?
Eh ben voilà, donc on rentre dans l'utopie, on atteint des montants pour financer de 80-90% d'un taux marginal sur le revenu, et montants qui sont pas stables, puisque c'est à partir de ces montants-là, le rendement fiscal finalement baisse lorsque vous augmentez les taux. Donc du coup, un revenu universel suffisant qui permettrait aux gens de s'arrêter de travailler et n'est pas finançable.
Ça, c'est votre analyse d'économiste, vous l'avez bien calculé. Il y avait quand même des choses très intéressantes là-dedans, parce qu'on continue d'y réfléchir. Et Van Parijs, par exemple, on revient encore à lui, les cite et les défend aussi, parce que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Il y a un article de Anne Hédoux dans l'ouvrage que vous avez fait paraître, Anne Hédoux, l'économiste également, sur la situation des femmes. Alors c'est très intéressant parce que elle note que ce sont des propositions, je crois qu'elle cite quelqu'un d'ailleurs là, avec cette phrase, le plus souvent aveugle au genre. C'est-à-dire, que deviennent les femmes dans cette affaire-là? Est-ce que c'est intéressant pour elles? Parce que s'il y a un effet immédiat et qui est partagé par tous, eh bien on arrive enfin à une égalité dans la redistribution, ce qui n'est pas évidemment le cas aujourd'hui entre les hommes et les femmes. En fait, les féministes sont très divisées là-dessus. Donc, il y a celles qui disent cela, et puis d'autres qui disent au contraire, attention, c'est pas forcément favorable à notre émancipation, puisque ça va nous renvoyer à la maison. C'est-à-dire, on nous donne, au fond, une somme d'argent suffisante pour, en nous conseillant, enfin, peut-être, vous voyez, d'avoir un salaire qui serait l'équivalent d'un salaire de femme au foyer.
Voilà,
où est l'émancipation là-dedans? Donc, c'est un vrai débat, hein, parce qu'il y a d'autres féministes.
Vous avez bien résumé le débat. Il y a une controverse parmi les féministes.
Alors, mais on entend les deux.
Ce que Anne Hédoux montre, c'est qu'en fait, c'était un angle mort il y a 20 ans. C'était pas réfléchi, mais depuis, il y a beaucoup de féministes qui se sont exprimées sur la question. Et pour résumer le débat, l'idée, c'est de dire que si un des objectifs du revenu universel, c'est que certaines personnes s'arrêtent de travailler, qui va s'arrêter de travailler en l'état actuel de la société? C'est plutôt les femmes qui vont s'arrêter de travailler.
Il y en a une qui dit de façon assez drôle, ça serait une prime de rapatriement à la maison.
Voilà. Donc ça risque d'exacerber les inégalités hommes-femmes. Pour d'autres féministes, en fait, c'est au contraire les femmes qui bénéficieraient le plus du revenu universel, notamment parce qu'elles ont les plus faibles revenus. Donc comme elles ont les plus faibles revenus et que le revenu universel serait financé par un impôt sur revenu, hein, par exemple la CSG ou l'impôt sur revenu, eh ben c'est elles qui dont les ressources augmenteraient le plus. Et donc, Philippe Bonne-Paris, je dis, eh ben, ça augmente la liberté réelle de tous et ça augmente notamment la liberté réelle des femmes. Et il pose la question, mais qui sommes-nous si les femmes réduisent leur temps de travail? Qui sommes-nous pour savoir mieux qu'elles quel serait le meilleur usage de leur temps et de leurs revenus? Par contre, on peut quand même opposer à cela un fait, c'est que c'est pas qu'une question de choix, parce que si certaines femmes s'arrêtent de travailler, ben toutes les jeunes femmes vont être discriminées sur le marché du travail en rentrant sur le marché du travail, parce qu'on va penser qu'elles pourraient s'arrêter de travailler. Et donc, si toutes ces jeunes femmes sont discriminées, elles vont avoir des salaires inférieurs, et finalement, ce sont elles, du fait des discriminations, qui s'arrêteraient de travailler. Donc,
c'est diabolique, cette affaire-là.
Diabolique.
Guillaume Allègre, on n'a pas parlé quand même des expériences de revenus universels. Vous avez dit aux États-Unis, on les a abandonnés. Ce n'est pas tout à fait vrai. L'Alaska, le fameux Alaska Permanent Fund, qui date de 1976, une région où, à la suite de la découverte de réserves pétrolières, on a décidé de distribuer un revenu. Alors, on peut parler d'un revenu universel, un revenu pour tous.
Oui, comment ça se passe de, et ça on peut parler toujours, de dividendes universels, voilà, ça existe toujours. Créé en 76 et ça redistribue une partie des produits...
À tous les habitants.
Du pétrole et du gaz. Donc c'est à tous les habitants. Le montant aussi, tous les ans, selon les prix du pétrole, entre 1000 et 2000 euros, versé à tous les individus, y compris les mineurs. Donc pour une famille d'un couple avec deux enfants, ça peut être 8 000 $ par an. Donc c'est pas négligeable, mais c'est pas non plus suffisant pour s'arrêter de travailler.
Il y a des effets négatifs là, parce qu'on a certainement un bon bilan.
Justement, il y a
là.
Des études qui ont montré que ça n'avait pas eu d'effet désincitatif sur
travail.
L'emploi. Donc, lorsque le montant est relativement faible, il n'y a pas d'effet désincitatif. Alors, c'est pas étonnant, cette expérience de l'Alaska est finalement pas étonnant parce que, comme on disait, le partage égalitaire, souvent, ça associe à une rente. Et là, c'est associé à la rente pétrolière. Et puis aussi, on peut dire qu'il y a une certaine méfiance envers la dépense publique aux États-Unis. Et donc, parce qu'il y a d'autres moyens de distribuer la rente. Hein. La Norvège a une rente pétrolière importante et ne la distribue pas de manière égale avec un revenu universel, mais la distribue avec des services publics, une école qui fonctionne. Ouais. Il y a une deuxième expérience de revenu universel aux États-Unis, ou de dividende universel, pareil, qui est liée à une rente, c'est les Indiens Cherokee de Caroline du Nord. Donc c'est une tribu de 8 000 Indiens, et les revenus du casino sont distribués de manière égale aux 8 000 membres de la tribu. Et là aussi, il y a eu des études. Alors, faut dire que les Amérindiens aux États-Unis sont assez pauvres. Et les études montrent que le versement de cette prime, en regardant finalement, en comparant les enfants amérindiens avec les enfants pauvres, mais non amérindiens, qui bénéficient pas de la prime, montre que ça a des effets positifs à la fois en termes de santé et en termes d'éducation. Donc, distribuer un revenu aux plus pauvres, ça a des effets positifs. Après, la question, c'est comment on distribue? Est-ce qu'on cible les plus pauvres avec des minima sociaux, comme on le fait en Europe, ou est-ce qu'on le verse à tout le monde de manière égalitaire? Ça, c'est une question qui reste en suspens.
Mais que vous avez tranché, en fait, il me semble, Guillaume Allègre, on le voit d'ailleurs dans votre introduction à ce livre dont nous parlons, au final, vous êtes quand même très, très sceptique. Et ça n'est pas qu'une question de montant. Hein. Vous avez montré tout à l'heure que, bien sûr, sur le plan financier, le montant était déterminant. Mais vous avez d'autres raisons de ne pas être trop pour.
Finalement, ma raison principale, c'est une raison de coût. Alors, il ne faut pas exagérer le coût. Le coût brut, en fait, est très, très important. Donc, 500 euros par mois pour 50 millions d'adultes, c'est 300 milliards. Mais il faut pas exagérer ce coût, parce que ce qui est important, là je vais être un peu technique, c'est qu'il faut réaliser en termes de transfert. Par exemple, si vous avez un revenu moyen, 2000 euros par mois, vous allez recevoir 500 euros de revenu universel et puis vous allez payer 500 euros d'imposition supplémentaire. Donc votre transfert, finalement, le transfert pour vous sera de zéro. Et si on met en place un revenu universel, il faut faire une simulation. Si on fait la simulation, on se rend compte que l'ensemble des transferts, c'est 60 milliards. 60 milliards, ça veut dire que les ménages qui gagnent en cumulé 60 milliards par an, et les ménages qui perdent en cumulé 60 milliards par an. 60 milliards, c'est l'équivalent de l'impôt sur revenu pour les actifs. Donc c'est assez important. On peut se poser la question de l'acceptabilité sociale et politique de ce transfert au moment où même les classes moyennes commencent à penser qu'il y a un rabble fiscal. Enfin,
qu'elles sont en train plutôt de perdre par rapport aux périodes antérieures. Hein. Donc, en fait, ça que vous retenez, les classes moyennes ne vont pas en bénéficier si ça s'instaure.
Voilà. Une deuxième idée, c'est que les classes moyennes bénéficient peu du revenu universel parce que 500 euros pour elles, c'est pas suffisant pour s'arrêter. Certains disent, elles pourraient s'arrêter de travailler pour pouvoir lancer une entreprise ou
des projets associatifs, des initiatives citoyennes. Exactement. On est aussi dans cette philosophie.
C'est l'idée, mais pour quelqu'un qui gagne 2000 euros par mois, un montant de 500 euros, ça ne serait pas suffisant. En cela, finalement, le revenu universel n'est pas aussi universel que les assurances sociales, qui bénéficient en proportion du salaire aussi, les assurances sociales comme le chômage, les retraites, ou que les services publics. Donc je pense que si on devait dépenser ces 60 milliards supplémentaires, il faudrait plutôt le mettre sur les services publics, transport, logement, et qui bénéficierait aussi aux classes moyennes plutôt que sur un revenu universel.
On l'a compris, Peut-être que le revenu universel va rester une utopie ou un fantasme sympathique, mais peu réalisable si on vous suit. En revanche, ce projet social-démocrate qui s'est un peu effondré au XXe siècle, vous nous avez expliqué pourquoi, a-t-il une chance dans ce XXIe siècle mal parti de renaître et à quelles conditions ?
Alors, il y a plusieurs conditions. Bah, une première condition, c'est celle de la justice fiscale. Parce que finalement, si certaines catégories de personnes pensent que les impôts sont trop élevés, ils pensent surtout que l'équité n'est pas respectée. Il y a 60% des Français qui sont tout à fait d'accord avec l'affirmation que les inégalités sont trop fortes dans le pays. Alors que c'est 30% aux États-Unis, pays où les inégalités sont deux fois plus élevées. Donc, il y a vraiment une demande forte d'égalité et de redistribution. Mais c'est pas suffisant. Le projet social-démocrate, il ne peut pas se contenter de la question de la redistribution. Ce qu'il faut, c'est attaquer les inégalités, et notamment, non seulement les inégalités de revenus, mais aussi les inégalités de patrimoine. Et pour s'y attaquer, la redistribution est nécessaire, par exemple par l'ISF, mais pas suffisante. Ce qu'il faut, c'est réduire le poids des propriétaires, réduire leur pouvoir de négociation. Par exemple, dans les entreprises, et c'est pas utopique, c'est quelque chose qui est fait en Allemagne, on pourrait avoir 50% de salariés dans les conseils d'administration et dans les comités de rémunération. Pour aussi que les patrons...
Contrôler davantage
la rémunération des patrons.
Très élevée. Mais pouvoir des aussi... propriétaires, vous parlez par exemple du logement, enfin de
voilà,
la question du logement. Ce sont toutes ces idées qui sont agitées en ce moment, bien sûr.
La question du logement est aussi très importante. On sait que le poids du logement a beaucoup augmenté, notamment dans les 20 dernières années. Et les classes moyennes qui désirent être propriétaires, finalement, se sont éloignées. Certaines d'entre elles se sont éloignées des centres-villes parce que le logement était trop cher dans les centres-villes. Donc, ce qu'il faut absolument, c'est construire plus de logements et construire proche des centres-villes pour faire baisser les prix des logements et puis aussi construire de manière sociale. Finalement, on a beaucoup défiscalisé pour les propriétaires bailleurs, mais c'est à l'État de construire ces logements pour faire en sorte que il soit bien desservi en transport public et pour promouvoir aussi la mixité sociale dans ces logements. Et donc, je pense que c'est une question qui est très importante.
Et qui est assez urgente et que nous traiterons d'ailleurs ici à Matière à penser, se loger, habiter, sujet extrêmement cher, évidemment, à beaucoup d'entre nous. Merci beaucoup, Guillaume Allègre, d'être venu nous parler de cette question du revenu universel. Mais l'affaire n'est pas terminée quand même, de votre point de vue. Le débat reste actuel et
exactement,
pourrait bien ressurgir. Hein.
Oui.
Dans les années à venir. Très bien, merci. Avec Philippe Van Paris, dont nous avons beaucoup parlé, et à juste titre, puisqu'il en est un des grands défenseurs, mais pas le seul, il y en a beaucoup d'autres dans d'autres pays du monde, on les a survolés un peu rapidement. Vous avez donc fait paraître dans la collection La vie des idées, aux presses universitaires de France, pour ou contre le revenu universel, et on y trouvera différentes contributions d'économistes et de philosophes, notamment Anne Edou, dont nous avons parlé sur la question des femmes. Merci encore et à notre petite équipe de
merci.
Ce soir également. Anne-Laure Chanel réalise notre émission en compagnie de Ludovic Auger ce soir. Et merci bien sûr pour la préparation, la documentation à Sandrine Chaperon, à Catherine Donnet, à Nino Lina, notre stagiaire qui va bientôt nous quitter. Et si vous souhaitez nous retrouver, venez sur le site franceculture.fr. Nous avons énormément d'ouvrages à vous recommander pour cette série. Très très bonne soirée à tous. Thank you.